Histoire, actualité comme tous les vendredis, actualité des expositions d'histoire, actualité des décisions législatives et rapport de l'actualité politique à l'histoire. Après, comme chaque vendredi, un nouveau petit précis d'histoire à l'usage des candidats, nous nous rendrons à la Cité des Sciences de la Villette à Paris où vient d'ouvrir une exposition titrée « Quoi de neuf au Moyen-Âge » qui résume pour tous, adultes et enfants, les savoirs sur le Moyen-Âge et savoirs renouvelés depuis une vingtaine d'années, en particulier par les fouilles archéologiques. Avec nous pour en parler, deux membres du conseil scientifique de cette exposition, l'historienne Hélène Noisé et l'archéologue et historienne d'art Brigitte Boissavi-Camus. Puis, comme chaque mois, pour sa chronique « Un saut dans la loi », Amélie Meff nous expliquera comment l'ouverture d'une salle de shoot, comme on dit, une salle de shoot à Paris, permet de s'interroger sur l'histoire de la loi du 31 décembre 1970 sur la toxicomanie. Mais tout de suite, pour le petit précis d'histoire à l'usage des candidats, Mathilde Larère, historienne de la Garde nationale, nous emmène un jour de vote. Nous sommes en 1840.
Allez-y, madame. Mettez votre enveloppe dans l'urne. À voter.
François Mitterrand. Petit précis d'histoire à l'usage des politiques.
Vous comptez les deux registres ?
François Mitterrand. Est-ce qu'on fait dans les épingles ?
Non, non.
Oui, mais pour les recompter après. On laisse un et on met le mot. D'accord.
Ça fait 7. Il est 20h, le scrutin est clos.
Bonjour Mathilde Larère.
Bonjour.
Et vous nous emmenez dans la première moitié du 19e siècle.
Tout à fait. Je vous emmène le 20 mars 1840 au matin. Parce que le 20 mars 1840 au matin, Charles Hurot, marchand de couleurs dans la rue de Charenton, c'est le quartier des 15-20, n'ouvre pas sa boutique. Il se prépare pour une journée d'élection. Comment ce simple marchand de couleurs, avec sa faible patente de quelques dizaines de francs, peut-il accéder aux urnes ? La monarchie de Juillet a pourtant imposé un cens électoral de 200 francs pour l'élection des députés, excluant donc du suffrage plus de 90% des hommes en âge de voter. Et si dans les campagnes, la loi du 22 mars 1831 a pu permettre à de faibles imposés d'élire le conseil municipal, eh bien dans la capitale, les conservateurs, toujours prompts à se méfier du peuple parisien, n'ont guère ouvert le collège électoral pour les municipales. Quelques rares diplômes ouvrent la voie des urnes, mais cela ne concerne pas notre marchand de couleurs. Et pourtant, aujourd'hui, Charles Hurot va bien voter, et peut-être même il sera élu. En effet, Charles Hurot est garde national dans la 2e compagnie du 2e bataillon de la 8e légion de la garde nationale de Paris. Une garde nationale qui, rappelons-le, est née en 1789. Créé par les édiles parisiens pour tout à la fois se défendre face à la contre-révolution et contenir la révolte populaire. Une création qui accompagnait le transfert de souveraineté du roi à la nation et contestait au roi son monopole de la violence légale. Une garde qui avait subsisté au prix de divisions tout au long de la Révolution, qui avait végété sous l'Empire, mais avait ressuscité dans la défense de Paris en 1814. Elle avait résisté sous la Restauration jusqu'à ce que Charles X, outré des cris séditieux qui avaient fusé de ses rangs lors d'une revue en 1827, ne la dissolve. Elle avait reparu lors des journées révolutionnaires, lors des Trois Glorieuses, et s'imposait comme un incontournable pour le régime sorti des barricades. Donc Charles est un garde national et comme tous les gardes nationaux, en vertu de la loi du 22 mars 1831, il a le droit d'élire ses officiers. Suffrage direct pour les officiers de compagnie, suffrage indirect pour les officiers de bataillon et les colonels de légion. En effet, au cœur du régime orléaniste, qui pourtant donc se refuse à étendre le suffrage, l'esprit de 1830 est parvenu à imposer quelques concessions timidement démocratiques. Dans les campagnes, c'est la loi municipale qui permet une descente de la vie politique vers les masses, pour reprendre l'expression de Maurice Agulon. Mais dans les villes, et principalement à Paris, c'est l'élection des officiers de la garde nationale qui joue ce rôle. Ces élections sont, je cite, « celles qui se rapprochent le plus du principe de souveraineté populaire ». Ces mots, Charles Hurot a pu les lire dans l'édition du National du 14 mars 1840, qu'il lit en bon républicain qu'il est. En effet, à Paris, si seuls 15 000 hommes fortunés peuvent élire les députés, 17 000 élire les conseillers municipaux, eh bien, ils sont 60 000 gardes nationaux à qui l'on a donné le droit de vote. Donc dans la compagnie de notre garde nationale, le grade de lieutenant est vacant. L'ancien a déménagé, ce sont des choses qui arrivent dans le Paris de la monarchie de juillet. Et Charles brigue le poste. Il n'est pas le seul. Dans le Paris du règne orléaniste, l'épaulette citoyenne distingue. Et Charles, qui s'est rallié depuis peu à la République, est convaincu de l'importance de prendre des grades dans la milice. Alors avec les autres républicains de l'arrondissement, eh bien, il s'est préparé à l'élection. Il a fait circuler une profession de foi dans laquelle il a rappelé son soutien à la campagne pour la réforme électorale de l'année précédente. Il a discuté politique au corps de garde ces derniers temps. La course à l'épaulette, en effet, mobilise les quartiers parisiens. Et ça a donné naissance à une véritable campagne avec ses pratiques spécifiques. Lettres aux électeurs, réunions préparatoires. Et cette campagne offre les conditions nécessaires à l'intrusion des luttes partisanes dans ces élections de la garde. Car si tous les candidats promettent tous de maintenir les effectifs de la compagnie, de veiller à la juste répartition du service, de s'appliquer à la dignité du corps et surtout d'arroser leurs élections, bientôt, l'un des principaux moyens pour différencier les candidats, eh bien, c'est de prendre position sur des questions de politique intérieure ou extérieure. Et en cela, 1840 constitue une coupure. C'est en effet à partir de cette élection que les professions de foi politiques deviennent nombreuses et qu'on les retrouve largement dans les archives. Le 20 mars 1840 au matin, Charles arrive donc à la mairie. 189 hommes de sa compagnie sont là, sur un effectif de 212. C'est une très belle participation. Mais c'est pas surprenant. Pour élire le capitaine, nombreux se déplacent. Alors au fur et à mesure de la journée, quand il ne restera plus à élire que les simples sous-officiers, certains quitteront le bureau de vote pour retourner vaquer à leurs affaires. Mais à 9h, peu manque à l'appel. Ils sont là, en uniforme, mais désarmés. La loi a bien rappelé qu'on ne délibère pas sous les armes. Chacun veille à ce que tout soit fait dans les règles, car l'on sait que le pouvoir est prompt à se saisir de la moindre irrégularité pour casser des élections qui lui déplaisent. Une pétition circule. Elle interpelle le ministère. Charles Hureau, ostensiblement la signe, apposant sa signature après celle du capitaine, un membre de la gauche dynastique. Lequel est réélu, c'est bon signe. Voilà le tour des lieutenants. Le marchand de couleurs l'emporte. Dans le Paris de la monarchie de juillet, les élections de la garde nationale sont devenues les espaces d'une politisation populaire, d'un apprentissage du suffrage. Alors certes, les non-imposés en étaient exclus, mais un grand nombre de Parisiens pouvaient y participer. Et par voie de conséquence, 1848 et son suffrage universel masculin restent finalement une coupure moins considérable qu'on peut l'imaginer, car depuis presque 20 ans, un certain nombre de Parisiens étaient habitués finalement à participer au vote. Ces petites urnes citoyennes, loin de faire accepter aux classes moyennes leur éviction de la grande arène politique, leur ont au contraire donné l'envie d'y entrer. L'écart entre l'expérience démocratique des élections de la garde et le conservatisme de la monarchie de juillet a nourri les frustrations politiques des classes moyennes. Frustrations qui seront une des sources de la révolution de 1848. En attendant, alors que la nuit tombe sur cette journée d'élection, Charles Hureau paye sa tournée dans un troquet de la rue de Charenton et porte un toast à la souveraineté du peuple.
Merci Mathilde Larrère. Votre chronique, donc ce petit précis d'histoire à l'usage des candidats, on peut évidemment le réécouter et le télécharger séparément de l'émission de ce jour. Merci encore.
Merci beaucoup.
France Culture. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Nous sommes donc ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette à Paris, à l'occasion de l'exposition dont on vous a déjà parlé sur cette antenne, Quoi de neuf au Moyen-Âge, avec deux des personnes qui participent au conseil scientifique de cette exposition. Brigitte Boissavi-Camus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc maître professeur d'archéologie et d'histoire de l'art à l'Université de Nanterre. Et nous sommes également avec Hélène Noisé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire donc du Moyen-Âge à l'Université de Paris-Sorbonne. Je vais commencer avec vous, Hélène Noisé, sur cette question, puisque tout ce qui se dit dans cette exposition au-dessus de nous, à deux étages au-dessus de nous, est que le Moyen-Âge n'est pas celui qu'on croit. Alors c'est vrai que nos maîtres Jacques Le Goff et d'autres nous ont habitués à cette idée qu'il y avait un Moyen-Âge qui était plus long que celui qu'on imaginait, qu'il y avait un Moyen-Âge qui était différent de ce que l'on croyait, qui ne voulait pas entendre parler des Dark Ages, comme on dit généralement à propos du Moyen-Âge dans un autre langage que le nôtre. Mais en quoi justement une exposition comme celle-ci peut-elle exposer une nouvelle vision du Moyen-Âge ?
Oui, alors un des apports principaux de l'exposition, c'est de voir comment l'archéologie amène un regard neuf sur des questions historiques classiques et questionne justement la notion même de Moyen-Âge. Le mot Moyen-Âge, ça veut dire âge moyen entre deux belles périodes de l'humanité, l'Antiquité, la Renaissance, et on a tous en tête, plus ou moins fortement, l'idée que le Moyen-Âge, c'est un espèce de trou noir, un vide, un recul presque de l'humanité, pour forcer le trait, entre l'Antiquité et la Renaissance. Et donc cette notion, elle a été dans, donc le Moyen-Âge est dévalorisé intrinsèquement par son nom même à l'époque en fait de la Renaissance et du XVIIIe siècle à l'époque des Lumières, parce qu'il s'agissait d'abattre l'ancien régime, et donc forcément quand on veut abattre un régime, on le noircit, on le critique à l'excès. Et le Moyen-Âge fait office pour nous aujourd'hui dans notre société contemporaine un petit peu de faire valoir, à la fois de faire valoir et de repoussoir, c'est-à-dire qu'on a souvent une image la plupart du temps noir du Moyen-Âge.
Immobilité aussi. Souvent, on a une image d'immobilité, de longues périodes de plus de 1000 ans qui n'auraient pas changé du début jusqu'à la fin. Or, on sait très bien que ça n'est pas vrai.
Tout à fait, d'immobilité, de violence, d'ignorance, c'est vraiment ce qui vient tout de suite à l'idée. Et je pense qu'en fait, cette image noire nous rassure, nous, aujourd'hui, sur notre propre société. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, finalement, c'est pas mal de vivre aujourd'hui, c'est mieux que de vivre à cette époque-là. Alors qu'on, toute société, à mon avis, produit ces phénomènes de domination, d'exclusion, de marginaux, pas plus, pas moins au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Mais noircir les périodes précédentes, et notamment celle-là, nous rassure aujourd'hui, je pense. Et c'est la même chose dans la vision rose du Moyen-Âge, elle n'est pas plus vraie que la vision noire.
Brigitte Boissavi-Camus, vous êtes professeure d'archéologie et d'histoire de l'art. En quoi l'archéologie vient-elle nous aider depuis maintenant une trentaine, une quarantaine d'années à redessiner les contours de ce Moyen-Âge et à changer la vision que l'on en a?
Alors, je pense qu'une des apports majeurs de l'archéologie, c'est en nous aidant à mieux connaître les cadres de vie de des sociétés, d'avoir montré aussi que cette société n'est pas immobile et qu'au contraire, il y a de nombreuses transformations, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Également, de voir que ce n'est pas une société qui se met en place au tout début du Moyen-Âge, au 5e, 6e siècle, pour aboutir à une société simplement particulière au 13e, 15e siècle, mais qu'au milieu de ces 1000 ans dont vous avez parlé, eh bien, il y a de nombreuses transformations, et des transformations, par exemple, la société du 10-11e siècle n'est pas concevable sans ce qui s'est passé pendant ce haut Moyen-Âge.
Oui, parce que, en fait, vous insistez beaucoup, tout le conseil scientifique qui a préparé donc cette exposition, Quoi de neuf au Moyen-Âge, ici à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette à Paris. Vous insistez beaucoup, Hélène Moiset, sur la dynamique, sur une idée d'une société dynamique qui évolue, qui change et qui change très régulièrement avec beaucoup d'apports, contrairement à ce que l'on croyait auparavant.
Oui, le 1000 ans, entre 500 et 1500, les dates traditionnelles du début du Moyen-Âge, on pourrait presque penser qu'on a affaire à deux mondes différents. Au début, on a un monde qui s'est constitué par la fusion des apports germaniques et romains, en gros, et la christianisation. Et ces deux éléments se sont combinés au cours du premier Moyen-Âge, à une époque avec un grand dynamisme démographique aussi, des migrations importantes, des mélanges vraiment culturels de peuples avec la romanité. Et à cette phase-là, c'est a sûrement succédé à partir du Moyen-Âge central, plutôt 11e, 13e, une phase où, en gros, la christianisation avait à peu près gagné, et une phase d'implantation des populations plus forte, et où surtout où l'Église a vraiment mis en place des structures d'encadrement qui ont dominé. Et du point de vue politique, on peut dire qu'on est passé du début à la fin du Moyen-Âge à une forme d'idéal qui était celle de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'au début au Moyen-Âge, Charlemagne, ce qu'il veut faire, c'est l'Empire romain, ni plus ni moins. Il n'est pas français, il n'est pas allemand, évidemment, il est franc. Et c'est l'Empire qui est la forme idéale du système politique et social, tandis qu'à la fin du Moyen-Âge, c'est l'État-nation. l'État-nation est une invention du Moyen-Âge, mais on est passé au cours de ces 1000 ans de l'Empire à l'État-nation.
Oui, alors on voit bien en quoi aussi l'archéologie nous a aidés en cela, d'une certaine façon, Brigitte Boissavi-Camus. C'est-à-dire que l'archéologie, auparavant, on sait très bien que jusque dans les années 60, les couches médiévales étaient régulièrement arasées sans même y regarder pour pouvoir aller jusqu'aux couches antiques qui étaient les seules couche d'archéologie valide, pourrait-on dire, pour une certaine archéologie qui voulait retrouver les racines romaines de la Gaule ou de la France. En l'occurrence, à partir de ce moment-là, dans les années 60, on a commencé à s'intéresser à ces couches et tout ce que l'on a trouvé dans l'archéologie, qui est très présent dans cette exposition Quoi de neuf au Moyen-Âge, nous dit autre chose que ce qu'on croyait auparavant.
Oui, parce que on avait aussi une vision que la société, la civilisation, c'est une civilisation matérielle, du dur, des édifices, et que il y avait un idéal qui passait de l'antique jusqu'à nos jours.
Et avec évidemment les cathédrales et les châteaux qui permettaient justement de se reconnaître dans un Moyen-Âge qui était construit en dur. Mais il y avait évidemment tout ce qu'il y avait à côté. Les poteaux, les trous de poteaux, les villas ou les fermes qui, elles, avaient disparu et qu'on retrouve par l'archéologie.
Oui, et je dirais que ce n'est pas simplement aussi cet habitat ou ces constructions en bois. C'est plutôt que l'archéologie là, nous a apporté l'idée qu'il pouvait y avoir des formes d'habitat ou des formes d'habiter qui pouvaient s'exprimer sous différentes matérialités.
Lesquelles, par exemple ?
Alors, par exemple, les maisons. C'est pas parce qu'on a une maison en bois qu'on est dans une culture, une civilisation misérabiliste. Hein, il peut y avoir aussi des métiers derrière, de charpenterie, des décors qui sont apportés à ces bâtiments. Donc c'est une autre façon, notamment d'habiter. Et pour la ville, on a beaucoup travaillé ces derniers temps, montrant que pour le haut Moyen-Âge, où on imaginait qu'il n'y avait plus de ville, c'était la disparition de la civilisation, de la culture romaine, gréco-romaine. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que on organise l'habitat, même pour le parcellaire, pour les maisons, de façon différente, plus groupée d'une certaine manière que dans l'Antiquité où c'est très étendu. Et puis aussi, je voudrais apporter un autre point, c'est que l'apport de l'archéologie nous montre qu'on n'est pas dans des césures historiques qui sont très franches. Ainsi, si on prend la question de la christianisation, eh bien, les liens entre l'étude sur du 4e jusqu'au 6e, 7e siècle nous montrent qu'on a des édifices religieux qui commencent à être construits dès la fin du 4e et 5e, disons, et que le 5e siècle est un désert documentaire ou quasiment pour les textes, au contraire d'une très grande richesse par l'archéologie et la culture matérielle, les églises, mais également les productions artisanales, les décors. Là s'invente notamment l'architecture chrétienne.
Et puis, il faut dire aussi, Hélène Noisé, que nous sommes aidés, quand on s'intéresse au Moyen-Âge, par effectivement l'avancée de certaines sciences, et on en a parlé dans l'émission donc consacrée aux sciences, la méthode scientifique, de certaines sciences qui aident l'historien, l'historienne, l'historienne de l'art ou l'historien de l'art à mieux comprendre son époque, l'époque médiévale en l'occurrence. C'est vrai que depuis une quarantaine d'années, nous avons la palynologie, la dendrochronologie, tout un tas de sciences qui nous permettent d'une certaine façon de nuancer ce que l'on croyait auparavant simplement en étudiant les textes et les bâtiments, Hélène Noisé.
Oui, tout à fait. Et pour reprendre ce que disait Brigitte à propos de la déprise urbaine du premier Moyen-Âge, en fait, la géoarchéologie...
La déprise urbaine, c'est donc l'idée que l'on avait que effectivement les villes s'étaient racornies, s'étaient renfermées sur elles-mêmes parce que l'Empire romain ne les protégeant plus, on avait petit à petit fait des villes plus petites, plus concentrées d'une certaine façon, et peut-être même qu'elles avaient disparu, c'est ce qu'on croyait auparavant.
Enfin, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il y avait une rétraction urbaine par rapport aux villes romaines suite aux invasions barbares, et donc on constatait une diminution de l'emprise au sol et un abandon d'une partie de la ville romaine à partir du 4e, 5e siècle, avec une rétraction dans l'enceinte du 4e siècle. Et en fait, on s'est rendu compte, grâce aux fouilles archéologiques préventives qui sont menées en échelle systématique dans toutes les villes de France et d'ailleurs...
Expliquer ce que sont les fouilles archéologiques préventives. Ce sont ces fouilles qui sont menées systématiquement lors d'une opération urbaine ou d'une opération d'aménagement, quelle qu'elle soit, construction d'un supermarché ou création d'une autoroute, et qui permettent justement à l'INRAP, qui est généralement en charge de ces opérations d'archéologie préventive, de mener des fouilles avant même que les travaux d'aménagement ne soient faits. Je vous laisse continuer.
Tout à fait. Et donc, on a trouvé qu'il y avait des niveaux qu'on appelle les terres noires, qu'on ne sait pas pour l'instant nommer autrement, qui peuvent faire plusieurs mètres d'épaisseur et qu'on retrouve en gros dans toutes les villes de France et d'Europe entre 4e et 12e siècle. Et ces terres noires sont des niveaux homogènes à l'œil. On ne discerne pas de strates, ce que l'archéologue repère habituellement. Et donc, on a longtemps interprété ces niveaux comme étant de la terre à jardin, du rural, justement, un retour, ce qui était, alors qu'on avait des constructions romaines en dur en dessous, on a ces niveaux noirs qu'on a interprétés comme du rural. Et en fait, justement, grâce aux avancées avec des protocoles de fouilles plus fins et les avancées de la géoarchéologie, de la micromorphologie, on se rend compte que ces niveaux de terre noire sont bien des couches d'occupation, de construction, et ne sont pas du tout des couches d'abandon, contrairement à ce qu'on a longtemps cru. Donc en fait, il y a, et c'est ce que disait Brigitte tout à l'heure, il y a des modes de construction qui sont différents, avec des matériaux périssables, bois-terre, qui se désagrègent et qui forment des sols qui ne sont plus les mêmes que les sols avec des bâtiments construits en dur. C'est-à-dire qu'on n'a plus les strates bien visibles, mais quand on étudie la répartition des artefacts, par exemple le gravier, on se rend compte que ces artefacts ne sont pas répartis de façon aléatoire et qu'il y a bien des couches d'occupation. Et ces couches, elles ont évolué après avec ce qu'on appelle les bioperturbations, les vers de terre qui ont tout homogénéisé.
Oui, alors ces terres noires, qu'y a-t-il dedans d'une certaine façon, Brigitte Boissavé-Camus ?
Alors ces terres noires, elles sont liées beaucoup à l'activité organique, à la bioturbation dont Hélène a fait allusion. Et également, ce sont les toits de chaume, par exemple, qu'on remplace et puis on les jette à côté. Et donc ce sont tous les petits vers de terre qui vont venir homogénéiser ces terres. Également, les dernières recherches qui ont été faites, notamment de Quentin Bordery, qui a fait une thèse à Paris 1 sur la question, elle a montré que ces niveaux concentrent beaucoup les polluants, d'une certaine manière, de l'activité urbaine. Et particulièrement l'activité de forge, de métallurgie. Donc loin de considérer qu'on est dans des terres en friche, et maintenant, du point de vue archéologique, on sait très bien que, justement, les friches ne présentent pas du tout cet aspect-là. Elles ne sont pas productrices de sol, si vous voulez, alors que l'activité, elle est productrice de sol. Et c'est l'activité humaine, au contraire assez dense, qui a produit ces terres noires.
Et on y trouve aussi, j'imagine, des déjections des animaux, des occupations, des façons dont on a taillé la viande, récupéré les os, etc., etc. Et qu'on y trouve tous ces objets, ces matériaux, pourrait-on dire, incarnés, d'une certaine façon, des animaux en particulier, dans ces terres qui sont mélangées avec les activités humaines que dont vous parliez tout à l'heure.
Exactement, on retrouve tous les déchets de l'activité humaine, à la fois les fragments de céramique, de verre, les traces également, quand on sait bien les lire, eh bien, des bâtiments avec ces trous de poteaux dont vous parliez. Et puis, bien sûr, alors, les restes animaux qui sont extrêmement intéressants pour comprendre les modes alimentaires des populations.
Alors, c'est extrêmement intéressant parce qu'à partir de ces données archéologiques que l'on trouve de loin en loin, lorsqu'on fait des fouilles d'archéologie préventive, Hélène Noiset, on peut établir de nouvelles visions, pourrait-on dire, de ce qu'est la société médiévale. Au 7e, 8e, 10e, 12e, 15e siècle, ça n'est pas la même société. Alors on a cette idée qui a été battue en brèche de la rétraction, pourrait-on dire, des cités antiques par le fait des invasions barbares. Mais on a aussi d'autres idées qui viennent, par exemple, la création des villages, l'évolution des villages qui peuvent être marquées par justement des concentrations urbaines de plus en plus marquées autour soit du cimetière, soit de l'église. Et c'est ce qui est présent dans cette exposition « Quoi de neuf au Moyen-Âge, Hélène Noiset ?»
Oui, tout à fait. Et effectivement, on sait que l'image classique que l'on a du village avec sa forme classique de l'église et du cimetière accolé, ça n'est pas quelque chose qui existait depuis l'éternité. Et c'est une création du Moyen-Âge et du Moyen-Âge central particulièrement.
Alors ça, insister là-dessus, parce qu'on a déjà fait des émissions à la Fabrique là-dessus, mais beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre. Mmh. C'est-à-dire que l'idée que le village ne serait pas de toute éternité, que ce village qui était derrière, je ne sais pas, François Mitterrand lors de sa campagne en 1980, n'existait pas déjà du temps des Gaulois, il faut pouvoir le redire, c'est une invention du Moyen-Âge central, ce village. Auparavant, l'habitat n'était pas celui-ci.
Tout à fait. C'est une invention qui est largement liée à l'emprise de l'Église sur la société, le fait que justement la christianisation a largement réussi et qu'elle peut donc chercher à regrouper et à fixer les populations. Il y a également le rapport des morts et des vivants. Jusque-là, durant l'Antiquité, les morts sont complètement exclus du monde des vivants. Il y a une nette répulsion. Et une des caractéristiques du Moyen-Âge chrétien, ça va être d'accepter les vivants Et progressivement, on voit les sépultures se rapprocher du monde des vivants, jusqu'à, alors, au début de manière relativement isolée, et puis c'est à partir du 11e, 12e siècle, vraiment, la zone funéraire se restreint dans l'espace jouxtant l'église et devient et se fixe comme le seul mode, le seul lieu d'inhumation.
Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que l'église, effectivement, fait partie de cette vision que l'on a du Moyen-Âge, l'église, et puis plus tard la cathédrale, quand on est dans un endroit qui est un évêché. Mais en tout cas, cette église, effectivement, va être le symbole, et on connaît les travaux de Dominique Yonnerpra autour de cela, le symbole de la christianisation de la société et de l'inclusion, pourrait-on dire, de toute la société autour ou dans cette église, Brigitte Boissavie-Camus.
Oui, alors là, il faut bien prendre conscience que le phénomène est très lent. Hein, là aussi.
Oui, ça se fait
et
pas
c'est
en
vrai
20
que
ans.
L'église, avec son cimetière à côté, qui est l'image du Moyen-Âge central, eh bien, elle se met en place bien avant. Ça commence dès les 6e, 7e siècles à se rapprocher, selon le processus dont a parlé Hélène. Cette église, pareillement, l'encadrement des fidèles, c'est une des grandes clichés aussi que l'on a vis-à-vis du Moyen-Âge, eh bien, elle s'est mise en place très progressivement. C'est-à-dire qu'au dans le Haut Moyen-Âge, l'église n'intervient pas forcément dans la vie de tous les jours.
Parce qu'il y a une église d'un côté, et de l'autre côté, il y a d'autres pouvoirs, qui sont des pouvoirs qui ne sont pas forcément les pouvoirs ecclésiaux, qui ne sont pas confondus comme ça sera plus tard.
Oui, mais pas simplement. C'est parce qu'on a des sociétés qui sont aussi traditionnelles. Et donc, elles vivent au sein d'un bassin de vie. Et ces villages, ces médiévaux, ils se sont fixés au sein d'un territoire qui était exploité déjà par des populations. Et à un moment donné, constitue pour le milieu rural plutôt vers le 7e siècle. Le phénomène commence un petit peu plus tôt à la campagne qu'à la ville, pour le coup. Ces églises se fixent, les cimetières se stabilisent grosso modo autour des églises. Et l'encadrement des populations va venir progressivement. Alors par exemple, avec l'instauration de la dîme à la période carolingienne, au départ, les populations vont être attachées à une église, et c'est progressivement à partir des 11e et surtout de la 34 en 1215 qu'on va avoir véritablement la paroisse telle qu'on en a l'image de la paroisse va se fixer avec un territoire.
Et effectivement, on a le travail de Florian Mazel paru l'année dernière sur l'évêque et son territoire qui nous montre combien les visites épiscopales, par exemple, sont importantes pour pouvoir mieux comprendre comment un évêque, en l'occurrence, délimite le territoire qui est le sien et d'une certaine façon fabrique une communauté autour de l'église qui est, dont il est le chef local, c'est cela ?
Oui, c'est cela. Puis aussi, c'est la hiérarchie de l'église qui s'installe à partir de la réforme grégorienne de la fin du XIe siècle où elle va organiser, on va dire, son personnel et prendre véritablement, à l'écart du pouvoir politique, va gérer cet encadrement spirituel des fidèles. Et cette paroisse, elle va rythmer tous les temps de la vie de la population.
Et ce faisant, d'une certaine façon, elle va aussi cliver la société. Il y aura d'un côté les laïcs, de l'autre côté les clercs, Hélène Noiset. Effectivement, à la fois, elle va être unifiante, puisque tout sera fait autour de la question de l'Église, avec un grand E, en l'occurrence, c'est pas simplement l'Église avec un petit E, mais également va séparer les uns et les autres, les laïcs et les clercs, en particulier Hélène Noiset.
Oui, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, l'Église a progressivement inclus toute la société. Et
c'est une des grandes théories, née récemment, pourrait-on dire, cette question de l'Église inclusive, en l'occurrence.
Oui, oui, tout à fait, effectivement. En tout cas, mis en avant récemment, et qui est liée, je pense, au départ, il faut bien voir l'idée, l'importance de Saint-Augustin, qui a donné une coloration particulière au christianisme, avec cette division entre le monde céleste et le monde terrestre. Le monde céleste qui est le monde pur d'avant la chute, là-dessus le serpent, la pomme, Ève, la chute, renversement, et le monde terrestre est un monde impur. Et l'Église justifie sa position dans la société en cherchant à faire en sorte que le monde terrestre redevienne le monde céleste. Et Il y a donc une conception très binaire qui va se décliner dans les catégories sociales. Et de même qu'il y a voilà, le monde céleste, le monde terrestre, il y a des catégories sociales clairs laïques. Les clairs sont associés à la pureté et à la perfection du monde céleste, alors que les laïcs sont associés à l'imperfection et à l'impureté du monde terrestre. Il y a pareil les hommes et les femmes. Les hommes sont associés au registre spirituel, tandis que les femmes sont rattachées au registre du monde terrestre. Et ça recoupe en fait un binôme fondamental qui est celui de la caritas et de la concupiscentia. La caritas qui est l'amour spirituel, qui doit être le ciment qui doit unir tous les hommes et qui est en fait un petit peu l'équivalent pour nous aujourd'hui de la citoyenneté. Il faut bien comprendre, être chrétien au Moyen-Âge, c'est comme aujourd'hui nous être citoyens en fait. C'est un mode d'appartenance à la société. Et donc il y a toute une série effectivement de binômes clivants, voilà, clercs laïcs, hommes-femmes, parenté spirituelle, parenté...
Pape et empereur.
Oui, tout à fait, bien sûr, à la tête, et qui donnera lieu plus tard à certains clivages qui nous structurent encore aujourd'hui, par exemple noir-blanc.
Mmh. Oui, ce qui est très intéressant dans cette idée, c'est que cette société inclusive, la société de cette église qui inclut la totalité du monde d'une certaine façon, va s'incarner dans le paysage d'une certaine façon. C'est vrai que le paysage des villes est dominé par la création des cathédrales qui d'une certaine façon représentent la place, l'importance de la maison Dieu au milieu de la ville, Brigitte Boissavé-Camus.
Alors c'est vrai dans une certaine mesure, mais pas complètement. Et je dirais que la recherche actuelle tend à montrer que cet espace, il n'est pas complètement homogène ou manichéen d'une certaine manière, parce qu'il y a différents acteurs dans la ville. Et c'est pas simplement les cathédrales, les fouilles, les recherches montrent qu'on a une population, différents acteurs, des artisans, et aussi, même pour l'église, plusieurs acteurs, parce qu'il y a l'évêque, mais il y a aussi toutes les chapitres, les monastères. Donc tout ça représente autant d'entités qui vont être amenées avec le pouvoir politique, que ce soit le comte, mais aussi les différents pouvoirs seigneuriaux qui sont dans la ville ou dans le territoire, et à côté aussi les artisans, les commerçants, etc. Donc toute une vie importante qui montre que l'espace, eh bien, il se partage aussi, et ce sont des compromis qui se font, qui pour créer une rue, qui pour améliorer l'évacuation des eaux ou des déchets, etc.
Prenons l'exemple des rues. Ces rues que nous connaissons, ces alignements de bâtiments, ce ne sont pas des alignements qui sont là de toute éternité. Au départ, les parcelles ne sont pas homogénéisées et il faut un certain temps pour que justement... Au cours de ce Moyen-Âge, Brigitte Boissavé-Camus, on pense à l'alignement des bâtiments, on pense justement à l'évacuation des eaux de façon plus homogène qu'auparavant.
Alors là, je dirais que pour la ville, ça tient au fait qu'on a pensé qu'il n'y avait plus de structure ou plus personne qui gérait la ville, d'une certaine manière.
C'est comme ça qu'on pensait auparavant.
Maintenant, on en a une vision plus nuancée. Et surtout, il faut partir du fait que l'espace, il appartient toujours à quelqu'un. Quand les hommes du Moyen-Âge sont arrivés, il y avait déjà une organisation de l'espace. Et c'est ce mouvement donc de rétraction de la ville qui, je vous disais, correspond à une autre façon d'habiter, qui a amené à modifier la structure foncière, finalement, le parcellaire de la fin de la période romaine. Et puis, ensuite, cette organisation-là, eh bien, elle s'est modifiée et voilà. Donc les rues, elles vont être prises en charge petit à petit par la commune. Hein, au Moyen-Âge, c'est plutôt l'évêque et ce qu'il reste selon les villes de la curie, par exemple. Il y a toujours des instances municipales, en quelque sorte. Et elles vont être co-gérées dans la ville du Moyen-Âge central et de la fin du Moyen-Âge entre les différents acteurs. Alors, la rue... Oui, ce que je voulais dire aussi, on avait l'idée du Moyen-Âge comme un monde rond, hein, avec des rues circulaires qui vont autour de l'enceinte, autour du château. Eh bien, on s'aperçoit que ces formes géométriques de notre imaginaire, elles sont à la fois exactes, mais à côté de ça, il y a aussi des mouvements d'expansion, de création de quartiers qui correspondent à des villes nouvelles et donc des opérations d'urbanisme qui se font aussi au Moyen-Âge.
Hélène Noiset, sur ces questions de ville dont vous êtes spécialiste par ailleurs.
Oui, effectivement, l'idée que l'on... qu'on se fait habituellement d'une ville avec une rue, des maisons mitoyennes, alignées les unes contre les autres, avec la porte principale et la façade qui donne sur la rue et une parcelle en arrière qui se développe en profondeur avec un bâtiment, des bâtiments annexes rejetés dans le fond de la cour, ce qu'on appelle le tissu urbain aujourd'hui. En fait, ça, c'est quelque chose qui matériellement, en tout cas en France et en France du Nord, n'existe pas avant le XIIe siècle. Et qu'effectivement, avant, l'archéologie montre que l'habitat que l'on considérait comme l'habitat rural, un peu misérabiliste, en bois, il est dominant partout, y compris de manière dense. Donc, si on définit l'urbain comme de la densité et de la diversité, comme le font certains géographes, on a bien une densité, simplement, elle n'a pas la même matérialité. On a un habitat, pour le pré-Moyen-Âge, jusqu'au XIIe siècle, qui est en matériaux périssables, disjoint, où les unités ne sont pas collées les unes aux autres, mais où il n'y a pas forcément moins de densité.
Et avec Francesca Fossati, quand on préparait cette émission, on se disait... tout compte fait qu'un titre de travail pourrait être « Qui dirige la société médiévale ?» Mais ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, c'est une mauvaise question, parce que la société, c'est l'Église, c'est la société, mais est-ce qu'il y a justement la place pour pouvoir avoir une hiérarchie sociale ? Est-ce qu'il y a la place pour pouvoir avoir des gens qui sont en haut qui ne seraient pas les mêmes que ceux qui sont en bas ? Et comment peut-on justement travailler sur cette question de l'épaisseur sociale et de la façon dont la société médiévale est organisée, Brigitte Boissavy-Camus ?
D'abord, je pense qu'il y a quand même toujours les grands domaines de ce que sont le politique, le religieux, hein, le pouvoir politique et les classes politiques ne sont pas absentes de la société médiévale.
Des tensions qui vont avec.
Des tensions ou au contraire des associations. C'est-à-dire que parfois, le comte ou le seigneur va se mettre avec un monastère ou avec l'évêque pour créer justement un nouvel espace urbain. Il y a aussi la société civile qui est quand même présente. Donc, c'est plusieurs acteurs qui sont dans cette société. Et il y a bien sûr une direction d'une société dans des grands axes, des grandes perspectives. Mais à côté de ça, il y a tout ce que la société fait, que chacun fait un compromis avec l'autre au sein de l'espace où il habite.
Et ça n'est pas un espace totalitaire dirigé par l'Église, Hélène Noiset ?
Moi, je serais encline, si, assez, effectivement.
Donc, on voit qu'il y a deux façons de voir, effectivement.
Oui. Pour revenir sur votre idée de la hiérarchie sociale, si, je pense qu'on... Alors, pour le coup, s'il y a bien une société qui se prête bien à une analyse de la hiérarchie sociale, c'est bien le Moyen-Âge. Parce que, contrairement à la nôtre, l'idée fondamentale de ces sociétés-là, c'est la stabilité. Parce que vous êtes... Chaque homme, chaque être humain créé par Dieu a une position dans la société qui est voulue par Dieu, et donc il est absolument impensable de vouloir y déroger et y échapper. Vous êtes né paysan, il est impensable de vouloir devenir noble. Vous êtes noble, il est tout aussi impensable de vouloir devenir paysan. Ça veut dire que la mobilité sociale que nous mettons en avant dans nos sociétés, c'est quelque chose de complètement aberrant et qui n'est pas du tout un idéal de vie. Donc la hiérarchie, elle est au contraire fondamentale pour la société médiévale et il n'y a pas de problème. Il y a des chefs, il y a des super chefs et il y a des sous-chefs.
Une des questions que je me posais en visitant cette exposition hier, en la visitant tranquillement, donc quoi de neuf au Moyen-Âge, c'était une vision un peu irénique de la société médiévale. En particulier, on sait que si nos enfants aiment la société médiévale, souvent c'est pour les châteaux et les combats de chevaliers. Et on y voyait, effectivement, il y a la place pour les chevaliers. Mais par exemple, la question des croisades a été, non pas mise à l'écart, mais troquée par la question de la découverte et des voyages. Et c'est une des questions que je me posais, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une nouvelle vision de la société médiévale qui serait moins guerrière, moins violente que celle qu'on a légitimement au XIXe siècle voulu créer par les mythes de Walter Scott et d'Ivanhoé, par exemple, Brigitte Boissavé-Camus?
Je pense qu'il n'y a pas forcément une société où ces aspects guerriers ou de conflits sont à évacuer. Au contraire, c'est une société où effectivement il y a un certain nombre de conflits liés notamment à cette société verticale dont parlait cette hiérarchie, puis aussi une verticalité de la société dont parlait Hélène. Mais à côté de ça, je pense que la recherche actuelle et notamment l'apport de l'archéologie, il se fait aussi à travers les autres aspects de la société. Donc on a une vision plus complexe ou plus diverse.
Et cette guerre, de toute façon, elle est moins exceptionnelle que les croisades, elle est plus ordinaire, plus banale et moins meurtrière en tous les cas que ces croisades qu'on a imaginées généralement, Hélène Noiset.
Oui, tout à fait. La guerre au Moyen-Âge, alors que c'est l'image qu'on en a, on a l'impression d'un monde perpétuellement en guerre. Alors oui, la guerre est à la fois beaucoup plus fréquente, beaucoup plus régulière, mais en même temps, elle est beaucoup moins meurtrière. Ça n'a rien à voir
avec les... On n'est pas dans Orlando Bloom et les guerres représentées à Hollywood, par exemple.
Non, pas du tout. Et on est, il faut bien voir que la guerre, c'est une pratique distinctive de l'aristocratie laïque. C'est-à-dire que c'est aussi sa fonction dans la société, c'est d'assurer la protection réaction de l'ensemble de la population, donc de faire la guerre en cas de menace. Et ça fait partie de son identité. Et donc, faut imaginer que, par exemple, encore au Haut Moyen-Âge, au Moyen-Âge central, l'aristocratie, bah, très régulièrement, à la belle saison, le printemps arrive, qu'est-ce qu'on fait? Ben, bah, on va faire la guerre. Voilà, on sait. Bon. Mais alors, la guerre ne vise pas du tout à éradiquer l'adversaire. Ça n'a rien à voir avec notre image. On ne cherche pas du tout à tuer, à détruire son ennemi. On cherche d'abord à montrer qu'on lui est supérieur. Donc, quand on est un chevalier, il faut faire des beaux gestes. Et il faut mettre à terre son adversaire, mais certainement pas le tuer. Ensuite, parce que vous pouvez, une fois que vous l'avez vaincu, vous l'avez désarçonné, vous lui demandez une rançon. Mais le but n'est pas de le détruire. Et la guerre est aussi une occasion de faire la paix. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie des... c'est une des modalités de négociation, transaction, discussion permanente entre les élites, entre l'aristocratie. Et la guerre n'est qu'une des manières de montrer qu'on est puissant, mais elle vise d'une certaine manière à sceller après une alliance. Et donc les guerres sont en fait entrecoupées d'alliances. Il faut imaginer par exemple entre les Plantagenets et les Capétiens qui sont dans une compétition dans la
territoriale. Territoriale.
Oui, tout à fait. Mais c'est entrecoupé. Il y a des moments où Jean Santerre vient à Paris, il est reçu par le roi, qui le loge au temple, et il n'y a pas de problème, et on se fait un repas ensemble, et puis...
Un peu comme Vladimir Poutine avec François Hollande, si ça avait marché. Brigitte Boissavi-Camus, tout de même, si on réfléchit à cette question-là, on se dit, tout compte fait, et on le sait quand on travaille en histoire, il y a cette très grande étrangeté, une étrangeté marquée, c'est-à-dire qu'en fait, on a une période qui est une sorte de période lointaine, presque lointaine dans le temps, comme elle pourrait être lointaine dans l'espace. Et néanmoins, on sait très bien qu'il y a des filaments, des fils qui nous relient à cette période. Et on voit bien que selon les périodes historiques et historiographiques, on insiste sur les liens ou on insiste sur l'étrangeté. On serait plutôt dans quelle période historiographique aujourd'hui, selon vous, Brigitte Boissavi-Camus? Est-ce que c'est le Moyen-Âge matrice de notre période? Est-ce que c'est un Moyen-Âge totalement étranger qu'il nous faut apprendre à connaître? Et comment peut-on justement marcher entre ces deux, non pas écueils, mais ces deux pôles, pourrait-on dire, de rapport au Moyen-Âge?
Je pense qu'il y a une recherche sur les liens, quand même, en ce moment. Même les liens entre ces périodes du Moyen-Âge et les nôtres. Et je dirais notamment parce que nous sommes confrontés à tous ces problèmes migratoires et que le Moyen-Âge représente une forme de laboratoire dans lequel on va un peu interroger.
Pourquoi? Parce que c'est un Moyen-Âge plus mobile qu'on ne le croit, par exemple?
Oui, alors là, je parle notamment pour le Haut Moyen-Âge, avec ces peuples qui se rencontrent, vont créer de nouvelles sociétés. Et effectivement, c'est les phénomènes d'acculturation dont on a régulièrement parlé. Je pense que là, il y a un lien pour comprendre ces phénomènes migratoires, passés, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter et comment trouver des solutions dans cette création de nouvelles sociétés, en fait. Donc il y a cet aspect-là. Je dirais qu'il y a un autre point qui interroge nos sociétés, c'est celle par rapport à la christianisation et à la religiosité de ces sociétés. Parce que effectivement, les sociétés médiévales, elles sont religieuses, mais comme l'étaient aussi les sociétés antiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans la laïcité n'existe pas à ce moment-là. Le laïc, c'est celui qui n'est pas clair. Mais la société elle-même, ça ne vient pas à l'idée de quelqu'un de penser que les deux ne marchent pas ensemble. Ce qui est important pour notre période peut-être aussi, où on pourrait être sensible en tout cas à cet aspect-là, c'est que vers la fin du Moyen-Âge, notamment à partir des 12e, 13e siècles, on voit dans la pratique religieuse et dans les pratiques en général une plus grande sensibilité à l'individualité de la personne. Donc c'est les relations aussi entre individus et collectifs, à mon avis, telles qu'elles s'évoluent au cours du Moyen-Âge, qui peuvent nous intéresser nos sociétés.
Hélène Noisé.
Oui, je pense qu'effectivement, on a plus longtemps insisté sur le côté exotique que le côté matriciel et qu'aujourd'hui, peut-être, on essaie de mettre en évidence non pas simplement des héritages du Moyen-Âge, mais c'est-à-dire qu'on est plus des recycleurs que des héritiers du Moyen-Âge, en fait, parce que on a à la fois des structures sociales et des objets qui nous sont transmis depuis le Moyen-Âge, mais qui sont réinterprétés, resémantisés, auxquels on donne de nouveaux sens. Et donc, il y a ce double aspect, et il y a tout un tas d'éléments. Alors, par exemple, dans les structures sociales, on pourrait parler du racisme, de l'antisémitisme, de l'État-nation, du mariage. Tout ça, c'est des choses qui nous viennent du Moyen-Âge, mais qui sont aujourd'hui pratiquées, évidemment pas de la même manière que c'était au Moyen-Âge. Si on prend par exemple, je sais pas moi, le mariage, quand je dis que le mariage nous est transmis aujourd'hui, le mariage civil actuel, je parle pas du mariage religieux, mais le mariage civil actuel, qui est consensuel, donc par consentement mutuel des époux, et qui est public, donc avec publication des bans, ça c'est deux caractéristiques du mariage carolingien réaffirmé à l'époque grégorienne. Il y avait plein d'autres possibilités de concevoir l'union entre deux époux et donc la procréation pour la reproduction de la société. Eh bien c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, on ne sait pas, même quand on se marie civilement aujourd'hui, on ne sait pas que dans les formes mêmes du mariage civil, c'est en fait quelque chose qui est complètement imbibé de christianisme.
Et alors c'est intéressant, j'imagine, pour des chercheuses et chercheurs comme vous, tous ceux qui ont participé à ce groupe de scientifiques, de conseils scientifiques de cette exposition, que de se confronter aussi à la nécessité, Brigitte Boissavé-Camus, d'expliquer cela à des familles, à des enfants, et de transcrire ça de façon relativement simple pour pouvoir être accessible à des gens qui ont justement, généralement par ailleurs, par les films, par leur lecture, des idées tout à fait arrêtées sur ce qu'est le Moyen-Âge, Brigitte Boissavé-Camus.
Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que c'est important aussi de travailler avec des spécialistes qui ne sont, enfin, plutôt avec des professionnels de la médiation culturelle, puisque les spécialistes sont souvent quasiment inaudibles, plutôt. Mais ça nous permet, ce dialogue, de voir qu'est-ce qui est important et qui a changé. Et l'aspect ludique de cette exposition, à mon avis, rend les choses très abordables à l'ensemble du public.
Hélène Noiset, sur ce point?
Oui, oui, et ça a été un vrai défi, un vrai enjeu, et j'espère que j'irai avec mes enfants voir cette exposition. Ils ont 8 et 10 ans, et on verra si ça marche, mais j'y crois.
Et vous pensez effectivement que grâce à votre travail, et au travail justement de la médiation culturelle qui a été mise en place ici, comme pour l'exposition Les Gaulois, puisque ce sont les mêmes personnes qui se sont occupées ici de l'exposition sur Les Gaulois, qui a vu énormément de succès, et de celle de Quoi de neuf au Moyen-Âge, eh bien on pourra mieux comprendre votre travail, parce que c'est aussi cela, c'est comment faire passer son travail lent, patient, de chercheur et de chercheuse aux yeux d'un grand public. Merci en tous les cas, Brigitte Boissavé-Camus, et merci à vous, Hélène Noiset, d'être venue ici à la Cité des Sciences pour cette émission. Il est temps, après avoir parlé ici à la Cité des Sciences et de l'industrie de la Villette à Paris du Moyen-Âge, de remonter à une période beaucoup plus présente, beaucoup plus proche de nous, puisque avec vous, Amélie Meffre, bonjour.
Bonjour.
Nous évoquons chaque mois les origines d'une loi ou d'une décision qui marque le contemporain. Et vous voulez revenir, puisque la ministre de la Santé, Marisol Touraine, mardi dernier, a inauguré la première salle de consommation à moindre risque, qu'on appelle également salle de shoot, à l'hôpital Lariboisière à Paris, et qu'une autre doit ouvrir bientôt à la fin du mois à Strasbourg. Vous voulez revenir sur une initiative qui a pris de longues années à voir le jour, puisqu'elle a été freinée notamment par une loi, la loi du 31 décembre 1970, dont vous allez nous parler, Amélie.
Voilà. Et je vais vous parler de cette loi parce que nous sommes finalement en face d'une loi très paradoxale, dans la mesure où elle entend lutter contre la toxicomanie en sanctionnant les usagers de drogue, et plus fortement que les lois précédentes, tout en mettant en place une prise en charge sanitaire. Nous voilà au lendemain de mai 68 et les élections législatives viennent de porter une nouvelle chambre bleu-azur avec 394 sièges pour la majorité présidentielle et 91 pour la gauche. La bataille contre la dissolution des mœurs peut démarrer. Le gouvernement veut s'attaquer notamment au fléau de la drogue qui ne cesse de faire la une des journaux. En 1968, une saisie record de 112 kilos d'héroïne met en lumière le développement de la French Connection basée à Marseille qui assure le trafic vers les États-Unis.
On en a fait des films d'ailleurs.
Voilà. Mais surtout, la France, qui semble épargnée jusqu'ici par la toxicomanie, commence elle aussi à être touchée, même si on a encore du mal à cerner son ampleur. Quoi qu'il en soit, les médias vont mener une vaste campagne sur le sujet. Elle va démarrer à l'été 69 quand une jeune fille est retrouvée morte d'overdose dans les toilettes du casino de Bandol. Ce fait divers va devenir une véritable affaire et les articles se multiplient pour dénoncer les ravages de la drogue sur la jeunesse. Un problème dont s'emparent nombre de députés lors des questions au gouvernement, à l'instar de Jacques Barrot qui demande à plusieurs reprises quelles mesures sont envisagées pour enrayer le phénomène.
Et Achille de Peretti, le président de l'Assemblée nationale, a des mesures un peu drastiques.
Lui, il soumet quelques suggestions au garde des Sceaux et il n'y va pas de main morte. Il préconise un jugement devant la cour d'assises, des cures de désintoxication payantes, voire l'expulsion, je cite, de tous ces chevelus sales et hirsutes qui hantent les nuits et les jours de Paris et des grandes villes.
J'ai oublié de me laver les cheveux à cette époque-là.
Voilà, il est temps de calmer les esprits. En novembre 1969, le gouvernement nomme une commission chargée d'étudier la question, présidée par le député UDR Pierre Mazeaud. Plusieurs experts sont alors entendus qui s'opposent en général à la pénalisation de l'usage des drogues, dont Claude Olivenstein à la tête du Centre Marmottan, qui souligne l'échec total des mesures coercitives. C'est aussi le point de vue du ministre de la Santé de l'époque, Robert Boulin, qui déclare le 24 octobre 1969 « S'il convient de réprimer sévèrement le trafic de drogue, le drogué lui-même doit être considéré comme un malade et traité comme tel. »
Mais on va assister à une bataille entre le ministère, ce ministère en l'occurrence de la Santé, et le ministère de la Justice, Amélie.
Voilà, et Jacqueline Bernard de Sélis, dans une étude sur la loi, l'a très bien montré. Deux rapports vont émerger, l'un mettant l'accent sur la prise en charge médicale du toxicomane et l'autre sur la répression. Mais finalement, fin juin 1970, la proposition soumise au Parlement, sous la pression du gouvernement, penchera pour un renforcement des sanctions, même si un volet sanitaire est prévu. L'usager de drogue est certes un malade, mais il reste un délinquant à poursuivre. Alors après des mois de navette entre l'Assemblée et le Sénat, le texte voté le 31 décembre 1970, sans grande discussion, va à la fois durcir les sanctions contre les trafiquants et les usagers de drogue. Ces derniers encourent 2 mois à 1 an de prison et une amende de 500 à 5000 francs. Et puis contrairement aux lois de 1916 et de 1953 qui ne réprimaient que l'usage en société, eh bien la loi de 1970 punit aussi l'usage personnel et solitaire de produits stupéfiants. Sont également punis d'un à 5 ans de prison et d'une forte amende les personnes faisant la présentation, sous un jour favorable de l'effet des drogues. Et c'est suffisamment flou pour que cette disposition entrave fortement la diffusion de l'information et donc la prévention. Parallèlement, comme le note Gwenola Le Naour, la loi met en place les fondements d'une prise en charge sanitaire des toxicomanes. Son article 1er établit ainsi que toute personne usant de façon illicite de stupéfiants est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire.
Et elle prévoit aussi une injonction thérapeutique.
Voilà. Et donc dès lors que l'usager de drogue qui suit une cure de désintoxication s'y tient, il échappe aux sanctions. Une mesure que prévoyait déjà la loi de 1953, mais qui ne fut jamais mise en place, faute de décret d'application. Ceci étant dit, malgré cette alternative aux sanctions, la loi de 1970 est fortement répressive et va gravement freiner les politiques de prévention. Dans la lignée de cette loi, un décret du 13 mars 1972 interdit la vente de seringues aux toxicomanes. Il faudra attendre 1987 pour qu'il soit aboli, ce décret, grâce à la bataille menée par Michel Barzac en pleine épidémie de sida. En attendant, la loi de 1970, qui pénalise donc l'usage de stupéfiants, est toujours en vigueur. Elle est juste mise en sourdine aujourd'hui dans les salles de shoot, où toxicomanes et accompagnants bénéficient d'une immunité.
Merci Amélie Meffre pour ce rappel à la loi, pourrait-on dire rappel à la loi de 1970 en l'occurrence. On peut lire sur ce sujet Gwenola Le Naour, Drogue, Sida et Action publique, une très discrète politique de réduction des risques parue aux presses universitaires de Rennes, c'était en 2010, et l'étude de Jacqueline Bernard de Sélis que vous citiez, Drogue, consommation interdite, la genèse de la loi du 31 décembre 70 parue en 1996 chez l'Harmattan. Nous remercions pour cette émission Francesca Fossati qui l'a préparée, et à la technique Adrien Gaza, Christophe Goudin, Gilles Manet, Benoît Gégou, et à la réalisation Renaud Dalmar. Merci à nos deux invités, Hélène Noiset et Brigitte Boissavi-Camus, d'être venues ici à l'occasion de cette exposition. Donc quoi de neuf au Moyen-Âge qui se déroule et qui vient juste d'ouvrir à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette. Et si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'y écouter aussi longtemps que vous le souhaitez, la télécharger dans l'année qui suit sa diffusion, et également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique de l'Histoire, c'est Fabrique FC. Merci à toutes et merci à tous.